France Culture.
Premier rendez-vous avec la rédaction, c'est le journal de Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. En quête d'un compromis sur le budget pour éviter la censure, Sébastien Lecornu annonce de nouvelles mesures à caractère social. Leur financement interroge. Sébastien Lecornu, vivement critiqué par Marine Le Pen, la chef de file du Rassemblement National, était hier à Marseille pour soutenir son candidat au municipal. Il veut éviter la censure. À la recherche d'un compromis sur le budget, Sébastien Lecornu a abattu hier de nouvelles cartes susceptibles, selon lui, de rassembler. Le Premier ministre a énuméré une série de mesures pour un budget présenté comme meilleur et responsable, assurant qu'il permettrait de réduire le déficit à l'objectif fixé de 5% du PIB au lieu de 5,3% à ce stade des discussions parlementaires. Des annonces qui portent surtout sur les dépenses avec une inflexion sociale. Annabelle Grelier.
Pour Sébastien Lecornu, le budget devra donner la priorité à ceux qui travaillent, aux plus fragiles et aux jeunes. Pour augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs, il annonce une réforme de la prime d'activité à hauteur d'environ 50 euros par mois pour environ 3 millions de ménages gagnant le SMIC. Il annonce également un soutien pour l'apprentissage, des bourses étudiantes maintenues, un renforcement des moyens pour les universités et organismes de recherche et 2000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale. En égrénant toutes ces dépenses, le Premier ministre a assuré globalement qu'il n'y aurait pas d'augmentation de l'impôt sur le revenu et que les retraités conserveront leur abattement de 10%. On pourrait également citer le maintien de la prime Rénov, pas d'année blanche pour les aides au logement et l'augmentation du budget des bailleurs sociaux de 400 millions d'euros pour favoriser la construction de logements. Alors où le gouvernement ira chercher les économies pour rester dans l'objectif des 5% de déficit? Ça, Sébastien Lecornu ne l'a pas dit. Sinon d'annoncer que pour la première fois, le budget des ministères serait abaissé, à l'exception des ministères des armées, l'enseignement supérieur et les outre-mer. Pour autant, pas de chiffrage, pas de précision. Le chapitre des économies et des choses qui fâchent attendra visiblement la semaine prochaine.
Côté réaction, les avancées sont réelles, se félicite le PS. On a des concessions très minimes, juge au contraire LFI. Marine Le Pen, elle, était à Marseille pour soutenir son candidat au municipal, réagissant aux annonces de Sébastien Lecornu, la chef de file du RN, l'a vivement épinglé, l'interdisant.
Calimero Lecornu.
C'est avec ironie que Marine Le Pen répond au Premier ministre. Dans un discours très court, elle lui consacre même la moitié de sa prise de parole. Quand Sébastien Lecornu désingle la stratégie cynique de LFI et du RN, la patronne des députés RN répond en règle.
Il vient de découvrir quelque chose d'absolument terrible. L'opposition s'oppose. L'eau mouille aussi. La seule stratégie que nous avons, monsieur le Premier ministre, c'est de défendre les Français.
Applaudi par le millier de sympathisants et militants marseillais présents pour l'écouter, Martine salue sa répartie.
Il est en train de se coucher devant tous les partis pour essayer de se maintenir en place. Les socialistes, les LR qui font pas grand-chose et tous ceux qu'il peut attraper dans son sillage pour en fin de compte se maintenir, c'est tout.
Ici, le procès en appel de Marine Le Pen semble loin, preuve pour Marjorie que sa championne ne quitte pas l'arène politique.
Mais elle a raison, tant qu'elle n'a pas été condamnée, elle est là, elle se bat pour défendre les intérêts des personnes qui la suivent. Et elle joue son rôle de politicienne qui est là pour représenter toutes les personnes qui ont voté pour elle.
Malgré son procès, un de ses plus proches l'assure, Marine Le Pen n'arrêtera pas de faire de la politique.
Après 10 jours d'une grève qui a perturbé le système de santé, les syndicats de médecins libéraux suspendent leur mouvement. Décision prise hier soir après avoir obtenu du gouvernement des engagements de retrait des mesures contestées et une promesse de renouer le dialogue. Un texte décisif pour Greenpeace, le traité des Nations Unies sur la haute mer entre en vigueur aujourd'hui. Ratifié par plus de 80 pays, il vise à protéger 30% des océans d'ici 2030 grâce notamment à la création d'aires marines protégées dans les eaux internationales. L'accord commercial entre l'UE et le Mercosur, validé par les États de l'Union, sera lui signé aujourd'hui par les pays sud-américains au Paraguay. Un accord toujours dénoncé en France par les agriculteurs. De nouvelles manifestations ont eu lieu hier. Le fils de l'ancien Shah d'Iran est convaincu que la République islamique va tomber face aux manifestations de masse. Celui qui se dit prêt à mener une transition démocratique dans son pays appelle la communauté internationale à protéger le peuple iranien en menant notamment des frappes chirurgicales contre les gardiens de la révolution. Le temps, aujourd'hui très perturbé dans le sud-est avec de fortes pluies, de la pluie également sur le reste d'une grosse moitié sud. Quelques éclaircies dans le nord-ouest et au nord-est. Les températures, 2 à 6 degrés en général ce matin, jusqu'à 10 en bord de Méditerranée. 9 à 12 cet après-midi sur la plupart des régions, 14 à 15 sur le pourtour méditerranéen, jusqu'à 16 à 17 en Corse.
J'en ai fait tomber mon stylo.
Oui, c'est ça, c'est l'émotion. Et il est donc 7h05, les matins du samedi, avec vous, Nicolas Herbourg.
Merci beaucoup, Marie-Hélène Duvigneau. Vous revenez à 7h30 pour les titres de l'actualité.
À tout à l'heure.
Merci à vous. Dans quelques minutes, l'invité de la transition de la semaine nous explique comment notre cerveau nous pousse vers le populisme. À 7h24, ce sera Récit d'enquête. Matteo Garanta nous propose un nouveau profil investigation, ces portraits de ceux et celles qui enquêtent. Et puis dans 30 minutes, dans notre discussion ce matin, l'Inde est-elle toujours la plus grande démocratie du monde, forte de ses 1,5 milliard d'habitants? Question qui se pose après plus de 10 ans au pouvoir de l'ultra-conservateur nationaliste et religieux Narendra Modi, pouvoir jugé illibéral avec des conséquences sur les libertés, notamment celles de la presse et de la presse étrangère. Deux ouvrages, deux témoignages viennent illustrer ces problématiques. Celui de Vanessa Dougnac, journaliste pendant plus de 20 ans dans le pays et qui du jour au lendemain a perdu son permis de séjour et donc de travailler en tant que journaliste dans ce pays. Et puis ce livre de Valentin Hainaut, documentariste qui nous raconte son passage en prison pour avoir osé s'intéresser à des pratiques qu'il qualifie de barbares. Vous avez le programme, il est 7h06 sur France Culture. Direction le Royaume-Uni pour débuter cette heure avec le reportage de la rédaction. Rappelez-vous, outre-Manche, après la diffusion de la série Adolescence, son créateur, l'acteur britannique Stephen Graham, avait lancé un appel aux pères du monde entier pour lui faire parvenir des lettres écrites de leurs mains à leurs fils sur la vision, leur vision de la masculinité. L'ouvrage intitulé « Lettres à nos fils » doit paraître en octobre prochain. Gaëlle Joly, vous êtes notre correspondante à Londres et vous avez recueilli le témoignage de l'un de ses pères qui a donc écrit une lettre de 10 pages à son fils de 24 ans, très marqué, comme beaucoup, par la thématique de cette série.
Cher Oliver, j'ai souvent rêvé qu'on puisse s'asseoir ensemble, boire une bière et te dire tout ce que je vais t'écrire ici. J'espère qu'on le fera un jour. Mais comme tu n'aimes pas parler de ce que tu ressens, j'ai préféré tout mettre par écrit.
Cette lettre à son fils, Matt y pensait depuis longtemps. Alors quand il a découvert ce projet sur les réseaux sociaux, cet ancien officier du renseignement militaire britannique, âgé de 50 ans, a pris la plume et posté l'enveloppe depuis son village des Midlands, au centre de l'Angleterre.
Mon fils est assez réservé. Il ne parle pas beaucoup de ses sentiments. Il est exactement comme moi, à son âge. J'ai essayé de lui dire tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise, mais sans lui dire quoi faire. Lui montrer à quel point je le soutiens, à quel point il est incroyable. Je veux qu'il sache que c'est ok d'être sensible, que ce n'est pas une faiblesse, et surtout qu'il puisse s'exprimer en tant qu'homme sans être jugé.
Une lettre qu'il aurait aimé recevoir de son père.
Je n'ai plus parlé à mon père depuis mes 14 ans. Bon sang, j'avais 49 ans quand il est mort. Et ces deux dernières années, j'ai appris à le connaître. On a eu faux tous les deux. J'ai vu ses faiblesses, sa culpabilité. Et si j'avais su ça quand j'étais plus jeune, peut-être que je n'aurais pas été aussi dur avec lui. Je l'ai repoussé parce que je pensais qu'il ne me comprenait pas. Mais en réalité, c'est moi qui ne le comprenais pas. Et mon fils est un peu pareil que moi. Moi aussi, j'ai ma manière de voir les choses et je fais des erreurs.
Matt n'a pas encore informé son fils de l'existence de cette lettre. Il attend la publication du livre à l'automne prochain pour lui remettre un exemplaire manuscrit. Comme beaucoup de Britanniques, il a été très marqué par la série Adolescence diffusée sur Netflix en début d'année.
Papa, j'ai rien fait, c'est pas vrai!
C'est un appel à l'action de la manosphère. 80% des femmes sont attirées par 20% des hommes. Alors faut les piéger parce que sinon on les aura jamais normalement.
Adolescence a déclenché un tel débat public en Angleterre sur la masculinité toxique que le Premier ministre Keir Starmer a proposé son visionnage dans toutes les écoles du pays. Je pense qu'en les montrant dans les écoles, on va pouvoir lancer une vraie discussion. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très bien. Mais ça ne peut pas être une discussion uniquement entre jeunes. Ça doit être un échange entre les jeunes et les adultes. Ça doit être une conversation à double sens. Il faut qu'on les écoute sur ce qu'ils nous disent à propos de l'estime de soi, du respect de soi. Depuis, l'école britannique tente de prendre le contre-pied de ce qu'elle définit comme la manosphère. En décembre dernier, le gouvernement a annoncé que les enseignants allaient recevoir une formation pour repérer et combattre le sexisme à l'école, aborder avec les élèves des sujets tels que le consentement et les dangers liés au partage d'images pornographiques, comme l'explique Jess Phillips, la secrétaire d'État chargée de la protection des victimes.
Il s'agira de programmes spécialisés et ciblés destinés aux enseignants.
enseignants, aux parents ou aux enfants eux-mêmes qui identifient des comportements problématiques. Par exemple, une adolescente pourrait se confier à un enseignant et dire qu'un garçon de l'établissement a tenté de la contrôler. Ou bien il pourrait constater des comportements misogynes envers les profs, un problème bien réel selon les syndicats d'enseignants.
Et dès la rentrée prochaine, des cours obligatoires consacrés à la lutte contre le sexisme en ligne, les stéréotypes de genre et la culture incel seront obligatoires dans tous les collèges et les lycées du pays.
Gaëlle Joly, notre correspondante à Londres pour le reportage de la rédaction. Vous écoutez France Culture, il est 7h10, place à la transition de la semaine.
7h-9h, les matins du samedi, Nicolas Herbeau.
Retour de la guerre, explosion des inégalités économiques, changement climatique. Si vous suivez l'actualité, vous trouverez de nombreux éléments contextuels pour expliquer la part croissante de gouvernements autoritaires installés par les populations à travers le globe ces derniers mois ou ces dernières années. À l'approche d'échéances électorales dans notre pays, municipal cette année, présidentiel l'an prochain, il est intéressant de se demander ce qui nous conduit dans ces contextes de crise à favoriser les propositions les plus radicales, voire même à accepter de sacrifier nos libertés. Eh bien, une partie de la réponse se trouve peut-être dans l'évolution de notre cerveau, et c'est ce que suggère l'anthropologie cognitive. Pascal Boyer, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Culture, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous enseignez justement l'anthropologie cognitive à l'Université Washington de Saint-Louis aux États-Unis, et vous venez de faire paraître l'impossible démocratie, comment nos instincts façonnent et déforment l'idéal politique chez Robert Laffont. Peut-être d'abord en quelques mots, qu'est-ce qu'on appelle l'anthropologie cognitive et qu'est-ce qu'elle nous apprend justement sur le processus de sélection des chefs au sein des communautés humaines.
Oui, alors je commence par dire dans la quatrième de couverture que en politique tout est biologique. Alors ça ne veut pas dire qu'on va expliquer la biologie en termes de cellules et de tissus, mais ça veut dire qu'on a un logiciel qui nous est donné par des centaines de milliers d'années d'évolution. Qui fait qu'on sait comment, enfin on a des intuitions, des motivations pour organiser des sociétés. Et ce logiciel, il est très ancien, il est tout à fait commun dans les sociétés humaines, mais c'est ça que je veux dire dans le livre, c'est il peut aussi nous expliquer des phénomènes qu'on croit être récents et qu'on croit être tout à fait inédits, comme étant la répétition de quelque chose qu'on a vu dans beaucoup de sociétés au cours du temps et qui s'explique de manière en rapport avec notre évolution. Alors justement, vous avez parlé de populisme et d'hommes forts. Et les populistes et les hommes forts, alors d'abord, c'est pas une idéologie politique, dans le sens qu'il y en a de gauche, de droite, et puis il y en a des religieux. Mais c'est un phénomène qu'on trouve dans beaucoup de sociétés, même dans les plus petites sociétés humaines, surtout dans les contextes, et c'est pas très surprenant là ce que je vais dire, où ce qui compte est moins la gestion efficace des affaires communes de la société que sa défense contre des ennemis perçus. Il y a des dizaines, des centaines d'expériences qui montrent que même les gens qui sentent que leur communauté est plus menacée vont choisir comme leader ou pensent que des leaders seraient préférables dans un catalogue qu'on leur donne quand ils voient des visages qui expriment plus de dominance.
Plus de dominance, moins de confiance, c'est ça la différence voilà, entre les deux types de chefs exactement. Qu'on peut choisir.
Voilà. Et alors, dans beaucoup de sociétés, même très petites, il y a des managers, il y a des chefs qu'on choisit pour leurs compétences. Ça, c'est très commun. Mais par contre, quand on est en société, en situation de crise entre groupes, et c'est ça le critère principal, là, il faut des leaders dominants, c'est ce que les gens préfèrent. Alors, vous disiez, ça fait que quelquefois, on les suit dans des mesures qui paraissent absurdes ou dangereuses. Mais il faut bien comprendre que c'est un jeu de donnant-donnant, c'est-à-dire que ces leaders forts nous assurent de leur capacité à faire triompher notre groupe contre d'autres. Le prix qu'on peut payer, c'est qu'ils ne sont pas des managers, ce ne sont pas des gens, des technocrates, ce ne sont pas des gens compétents. Et quelquefois aussi, ce sont des gens autoritaires.
Ça veut dire qu'on est en train de distinguer donc ce qu'on appelle les managers, ceux qui dirigent, organisent, coordonnent, oui. Dont les compétences, on peut en dire quelques mots, mais c'est quoi ? Ils sont intelligents, ils sont compétents, c'est une première chose. Ils sont aussi respectés par tout le monde et ils mènent le groupe vers une direction commune.
Voilà.
en opposition à ceux qui seraient des chefs de guerre qu'on plébiscite parce qu'ils ont une compétence guerrière, parce que ils ont un allant, un courage, une forme de respectabilité, mais par la terreur, on peut le dire comme ça, parce que vous voyez.
Oui, et par l'autorité, c'est-à-dire que pour projeter une image d'un leader formidable et menaçant à l'égard à l'extérieur, il faut avoir les capacités qui effectivement permettent d'asseoir son pouvoir sur l'intérieur. Vous avez dit, les gens peuvent accepter des limites à leur liberté, à leur autonomie. Oui, c'est un marché. Et c'est un marché qui est conclu dans notre tête, très souvent, sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on le fasse consciemment.
On a peut-être un mot qui nous vient à l'esprit, celui d'adepte, celui de suiveur aussi. Vous dites non, il y a un vrai choix de ces chefs-là.
Oui, bien sûr. Alors, le choix, il peut être en grande partie inconscient, mais c'est un choix dans le sens où les gens qui suivent ces leaders ne sont pas des gens dont on a lavé le cerveau et qui seraient victimes de la propagande.
Il n'y a pas d'endoctrinement.
Voilà. Alors, il y a une très grande motivation qu'on a tous à penser que les idées politiques des autres, ils les ont acquis parce qu'ils sont crédules et parce qu'ils n'ont pas réfléchi ou parce qu'ils sont mal informés. Et ces idées sont en fait, quand les gens étudient vraiment la diffusion des messages politiques, ils voient que c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que, en gros, ce n'est pas que les gens sont dans leur bulle, comme on dit, où ils entendent seulement un son de cloche. C'est vrai que souvent ils tendent à y aller, mais ils y vont parce qu'ils sont déjà convaincus du message en question.
Alors, l'anthropologie cognitive, dans l'anthropologie cognitive, il y a aussi ce qu'on appelle la psychologie coalitionnelle.
Oui.
De quoi s'agit-il et comment est-ce qu'elle est déterminante pour justement former le débat politique et au public qu'on peut avoir ?
Elle est essentielle. Alors, la psychologie coalitionnelle, c'est simplement ce qui fait que on n'est pas seulement membre de groupes, on est membre de certaines équipes contre d'autres équipes. Et c'est-à-dire, c'est un fait social et normal des sociétés humaines. C'est un fait qu'on rencontre, si vous êtes dans une entreprise qui a plus de 3 personnes, il y a déjà des clics d'un petit groupe contre un autre. Si vous suivez le football, il y a des équipes contre d'autres. Donc, quand la politique se présente, comme c'est le cas dans les démocraties avec des élections, comme un jeu à somme nulle, c'est-à-dire ceux qui gagnent ne gagnent que si d'autres perdent, cette psychologie est immédiatement activée parce qu'elle est très pertinente. Alors, elle a des résultats qui sont quelquefois presque comiques. Il y a beaucoup d'expériences psychologiques, par exemple, qui montrent que si on présente une politique, voilà, on va donner plus d'argent aux hôpitaux, mais moins aux routes, ou plus aux routes, ou moins aux hôpitaux, et qu'on la présente comme émanant d'un parti particulier, les gens sont complètement convaincus que c'est une bonne politique, c'est très bon. Bon, ils suivent leur équipe, quoi. Alors, quelquefois, on appelle ça du tribalisme. Mais je trouve que c'est pas une très bonne explication. D'abord parce que c'est un mot, c'est une description, c'est pas une explication. Hein. Et c'est pas seulement que les gens sont tribalistes, c'est surtout qu'ils considèrent, peut-être de façon inconsciente, que leurs intérêts vont dans la promotion d'une équipe contre une autre.
C'est ce qu'on appelle l'esprit partisan, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble et on est d'accord sur tout pour constituer effectivement ce groupe. Et vous allez même plus loin puisque vous parlez de paquets de croyances globales.